Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Tim Cook doit avoir le cœur bien accroché depuis que Donald Trump a déclaré une guerre commerciale au monde entier, Apple est embarqué dans des montagnes russes. Si le président américain a fait retomber la pression avec la plupart des pays, avec la Chine, à l'inverse, c'est l'escalade. Comment Apple peut-elle se sortir de ce bourbier? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, on en sait plus sur les déboires de Siri. Apple pousse à activer les mises à jour automatiques sur macOS et l'iPhone des 20 ans pourrait en mettre plein la vue. Nous sommes le samedi 12 avril, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Quelle semaine ! J'aimerais pas être à la place de Tim Cook et de toutes les personnes qui font du commerce de manière générale. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane. Oui, bah ça va bien mieux que Tim Cook en tout cas, et toi ?
Ça va bien, ouais. Est-ce que t'as fait un stock d'iPhone comme les Américains, au cas où ?
Non, mais quelle semaine malgré tout. Hein, des semaines comme ça, on n'en a pas vécu beaucoup. Et c'est vrai qu'il paraît-il qu'en Apple Store, même en Europe, les gens se posent des questions. Alors, ils ne se ruent pas sur des iPhones, mais il y a des gens qui posent des questions comme ça. Ils vont augmenter ici aussi les prix des iPhones. Donc, on sent que ça a suscité une petite crainte. Alors, ouais, j'ose pas me mettre à la place de Tim Cook. Il doit avoir des nœuds au cerveau juste incroyables. J'espère franchement qu'il écrira un jour une biographie et qu'il racontera cet épisode, mais sans langue de bois. Parce que là, ça peut franchement être intéressant.
C'est sûr.
Et l'autre société pour laquelle c'est quand même pas de bol, c'est quand même Nintendo, quand même, qui prépare sa Switch depuis des années. Et niveau lancement, ça peut pas être pire.
Ouais. Bon, on va en parler tout de suite. Le gros sujet de la semaine, c'est évidemment cette guerre commerciale complètement invraisemblable dans laquelle Apple est prise. Alors, petit résumé, si vous n'avez pas tout suivi. Le 2 avril, Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient imposer des droits de douane à tous les pays. Une première salve de 10% est entrée en vigueur le samedi 5 avril, à la suite de quoi les marchés financiers se sont effondrés. Une deuxième salve de taxes encore plus élevée devait prendre effet ce mercredi, mais au dernier moment, Donald Trump a annoncé une pause pour tout le pays. Enfin, tous, sauf pour la Chine, parce que c'est même l'escalade avec la Chine, puisque les droits de douane s'élèvent maintenant à 145%. Apple est clairement dans la pire des situations puisque les États-Unis sont son principal marché et la Chine sa principale source d'approvisionnement. Alors comment Tim Cook peut se sortir de ce bourbier ? Est-ce que c'est en fabriquant des iPhones aux États-Unis comme le fantasme Donald Trump ?
Ils en sont où ? Alors je ne sais pas si c'était Musk ou Bezos qui voulait installer des usines sur la Lune. Ça peut être une solution, c'est pas taxé ça encore. Oui, alors on peut, enfin c'est ce que je disais, on peut critiquer Tim Cook, mais franchement là je le plains, on va le voir à la WDC, on va plus le reconnaître, il aura pris 10 ans l'espace de 3 mois.
Il a déjà plein de cheveux blancs, donc ça va pas faire la différence, non. Mais pour le reste, ouais.
Non mais en plus il doit d'autant plus le mal de vivre que c'est lui qui a mis en place des chaînes d'approvisionnement et de production d'Apple à travers le monde, c'est quand même sa grande réussite, et là on est en train de casser son jouet, hein. Alors, de ce que l'on sait, Apple a amassé de grosses quantités de produits aux États-Unis ces dernières semaines. Le phénomène s'est accéléré ces derniers jours, avant la mise en place de ces taxes. Le trafic aérien a été très embouteillé, paraît-il. Je pense qu'il doit l'être encore. Je pense que Apple va continuer à faire circuler beaucoup d'avions, notamment entre l'Inde et les États-Unis, car c'est une trêve, la période que nous vivons actuellement, pas la fin de l'histoire. Mais le souci pour Apple, c'est que les droits de douane, comme tu le disais, ne cessent d'augmenter entre les États-Unis et la Chine. Or, la Chine, ça reste quand même le principal sous-traitant d'Apple. Alors, que faire ? Alors, bon, on peut reconnaître que depuis quelque temps, Apple essaie de moins dépendre de la Chine. Alors, c'était plus en prévision d'un conflit avec Taïwan, mais la guerre, la guerre commerciale que nous vivons en ce moment, c'est pas le début d'une histoire. Le véritable début, il remonte au moins au premier mandat de Trump. Et quand Biden lui avait succédé, il n'avait pas changé grand-chose au dispositif mis en place pour lutter contre la Chine. Alors, le souci pour Apple, ça va être de miser sur les bons chevaux. Elle mise beaucoup sur l'Inde, qui est peu taxée par Trump. Ça, c'est pas mal. Elle a beaucoup misé également sur le Vietnam. Alors là, par contre, ça marche moins bien. Elle a aussi un petit site de production au Brésil. Alors, je pense que ce site de production devrait avoir un bel avenir. Voilà. De toute façon, dans ce contexte, elle n'a d'autre choix que de continuer à diversifier sa production et ses partenaires. Mais alors, pour les États-Unis, que faire? Ben, je pense que déjà, elle n'a d'autre choix que de négocier avec Trump et espérer une exemption partielle des droits de douane. Mais cela va sans doute signifier d'importants investissements aux États-Unis, d'ouvrir de nouveaux sites de production. Trump a dit, et ça je pense que Tim Cook a dû bien l'entendre, qu'il était persuadé qu'Apple pouvait produire des iPhones aux États-Unis. Et c'est bien là tout le problème. Jusqu'à présent, Apple a plutôt cherché à relocaliser des postes à forte valeur ajoutée dans ce domaine plutôt que de faire de l'assemblage bête et méchant. Alors, peut-on imaginer l'arrivée prochaine d'usines fortement automatisées à l'aide de robots aux États-Unis? C'est certainement une piste. Après, je pense qu'il va falloir se faire une raison, en tout cas pour les Américains. Les prix vont certainement augmenter. La question est de savoir comment Apple va gérer cette hausse de prix. Va-t-elle prendre un petit peu sur ses marges? Sans doute un petit peu. Va-t-elle délaisser le marché américain? Ça, c'est impensable. Va-t-elle faire payer le consommateur américain ou tous les consommateurs du monde entier en lissant cette hausse un peu partout? Parce qu'elle a quand même malgré tout des petits dispositifs pour jouer avec ça. Je prends juste un exemple. L'euro s'est apprécié de 10% face au dollar depuis le début de l'année. Alors, toute la stratégie de Trump, d'ailleurs, c'est d'affaiblir le dollar face aux autres devises. Donc, imaginons que l'euro continue à monter et se retrouve à 1,20€. S'il se retrouve à 1,20€, normalement, Apple devrait appliquer ce cours et par conséquent faire baisser le prix de ses produits en Europe. Si ça se produit, va-t-elle vraiment le faire ou va-t-elle justement oublier de baisser les prix en Europe? On verra. Un dernier point, on parle beaucoup de taxes, d'augmentation, mais je pense que pour Apple, c'est aussi toute une stratégie produit à repenser. Alors là, on a beaucoup parlé d'iPhone, mais je vais prendre un autre exemple. C'est le Vision Pro. Alors, ils se sont plantés avec la V1. Apple veut revenir à la charge avec un deuxième modèle qui serait vendu quasiment deux fois moitié prix. C'est ce que disent les rumeurs en tout cas. Et bon, et ça paraît pas déconnant que Apple se dise, bah, pour élargir le produit, je vais tâcher de commercialiser un casque à 2 000 $, disons.
Puis avec le temps, ils peuvent aussi optimiser leur chaîne d'assemblage, tout ça, pour faire un produit moins cher, quoi. C'est classique.
C'est ça, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est comment tu veux y arriver alors qu'Apple nous avait quand même expliqué que le Vision Pro était un produit incroyablement difficile à fabriquer. Donc voilà, donc déjà, il faut penser peut-être à le fabriquer autre part, et il faut réussir à réduire les coûts à tous les niveaux. Moi, ça me paraît quasiment mission impossible, surtout, enfin, rappelons-le, le Vision Pro est fabriqué en Chine.
Et tu parlais aussi donc de chaînes d'assemblage aux États-Unis. Donc ça, c'est le grand rêve de Donald Trump. En fait, il existe, on peut le rappeler, déjà une chaîne d'assemblage aux États-Unis, mais c'est pour le Mac Pro. Et c'est des volumes qui n'ont évidemment rien à voir avec les iPhones, parce que des Mac Pro, il n'y en a pas des millions qui sont produits chaque semestre, ni même chaque année. Et puis, rien que la production du Mac Pro avait posé des problèmes à Apple aux États-Unis parce que ses fournisseurs n'étaient pas tous capables de produire des pièces pour cette machine-là. Alors, faire revenir la production de l'iPhone aux États-Unis, c'est absolument impossible, en fait.
Alors, comme tu dis, la bonne nouvelle, c'est que le prix du Mac Pro n'augmentera pas.
On va continuer dans les problèmes d'Apple en parlant de Siri. Vous en êtes sûrement déjà rendu compte, Siri n'est pas très finot. On espérait qu'il s'améliore nettement avec Apple Intelligence, mais la mise à jour qui devait lui apporter des nouvelles capacités a été repoussée à plus tard, on ne sait pas trop quand. Le site The Information a mené l'enquête pour tenter de comprendre pourquoi l'assistant avait si peu progressé ces dernières années. Il en ressort qu'il y a plusieurs problèmes en interne. Alors, il y a d'abord des conflits entre deux équipes. D'une part, celle de Craig Federighi qui bosse sur l'ingénierie logicielle, et d'autre part, celle de John Gianandrea qui est responsable de l'intelligence artificielle. Il y aurait carrément une compétition en quelque sorte entre ces deux équipes. Et puis, il y a aussi un manque de vision et de prise de risque. Des cadres, par exemple, n'ont pas pris la mesure de l'importance de ChatGPT et des modèles de langage en général. Face à cette débâcle, Tim Cook a pris finalement quelques décisions fortes dernièrement.
Je me souviens qu'on en avait fait des tonnes quand John Gianandrea avait rejoint Apple en 2018. Mais je ne suis pas certain qu'on le regrette tant que cela chez Google. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, on expliquait que ce recrutement montrait à quel point Apple prenait l'intelligence artificielle au sérieux. Elle avait déjà des soucis à l'époque. Le premier point justement que je veux souligner, c'est à quel point les dirigeants d'Apple sont passés à côté du train de l'intelligence artificielle générative. On avait appris que Federighi avait jeté un coup d'œil à ChatGPT pendant les fêtes de fin d'année, donc 2 mois après sa sortie, grosso modo en même temps que Monsieur Tout-le-Monde. John Gianandrea s'est montré méfiant pour sa part vis-à-vis de ChatGPT, ne voyant pas la valeur ajoutée du service pour les utilisateurs. Et là, on se demande, ces gens sont-ils vraiment payés des millions de dollars? A-t-il déjà utilisé Siri? Bon, plus sérieusement, les dirigeants d'Apple ne sont pas les seuls à avoir eu du dédain concernant l'intelligence artificielle générative. J'ai entendu plus ou moins les mêmes discours chez Meta, j'ai entendu Yann LeCun tenir un discours un peu dédaigneux, disant « Oh, mais on a ça depuis longtemps au fin fond d'un placard, mais bon, oh, on pensait pas que ça intéresserait les gens ». Alors, pour en venir à Apple, on savait qu'il y avait des problèmes d'entente entre les différentes équipes. Souviens-toi, on avait appris qu'à un moment donné, l'équipe du Vision Pro avait justement envisagé de faire son propre Siri.
C'est ça, ouais.
Alors, mais ce qui a révélé The Information cette semaine, c'est particulièrement grave, cela dit. On savait que certaines fonctions de Siri présentées à la WDC, c'était un joli montage vidéo. Mais c'était en fait pire, l'équipe en charge de Siri n'était pas au courant de ces nouveautés. Ouais. Donc, ils ont dû passer quand même une drôle de WDC. Et bah, là, on comprend tout de suite mieux les retards de Siri. Bon, alors là, c'est Craig Federighi qui a repris la main sur Siri, qui a placé Mike Rockwell. Donc, c'était justement à la tête de cette division. Donc, c'était lui qui avait supervisé le développement du Vision Pro et qui voulait faire un grand usage de Siri. Alors bon, je vois ça plutôt d'un œil peu positif. Federighi est quelqu'un de pragmatique et il a dit qu'il voulait tout mettre en œuvre pour mettre Apple en tête du peloton, quitte à utiliser des modèles open source mis au point par la concurrence. Vraiment, ce que laissait entendre le papier de The Information, c'est qu'il était vraiment prêt à tout pour redresser Apple dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors à suivre. Même si j'ai toujours des doutes sur la stratégie d'Apple, parce que ce que pointait malgré tout The Information, c'était quand même l'un des problèmes d'Apple, c'était quand même toute sa politique de vie privée et de ne pas assembler assez de données. Bon, bah, voilà, on verra ce que ça donne, on va voir ce que ça va donner.
On va voir. Sans transition, si vous avez mis à jour votre Mac sous macOS 15.4, vous avez peut-être vu un changement dans la gestion des mises à jour. En fait, comme sur iOS, Apple pousse maintenant très fortement à activer les mises à jour automatiques. Après l'installation du système, un panneau indique que les futures mises à jour logicielles seront automatiquement téléchargées et installées dès leur sortie. Et si vous avez cliqué rapidement sur le bouton « Continuer », vous avez donné votre consentement. Est-ce que c'est une bonne chose ces mises à jour automatiques, Christophe ? Ça fait beaucoup débat dans les commentaires.
Ouais, j'étais assez étonné de voir que le sujet faisait à ce point-là réagir, mais c'est aussi pareil, il faut le reconnaître, avec les anciennes versions d'iOS qu'Apple cesse de signer assez rapidement. C'est-à-dire que là, il est d'ores et déjà plus possible de réinstaller iOS 18.3.2 sur un iPhone. Alors, moi, je suis plutôt dans la team mise à jour automatique, pour être franc. Apple a beaucoup travaillé sur le sujet, mais je trouve que le processus de mise à jour, il est encore trop lent, trop lourd. Enfin, je trouve que c'est toujours un petit peu pénible. Et encore, sur macOS et iOS, ça va. Mais alors, sur watchOS, c'est la catastrophe. Si vous n'êtes pas proactif avec watchOS, vous avez toujours systématiquement 5 ou 6 versions de retard. Moi, je rêve que les mises à jour soient aussi transparentes qu'avec Chrome ou Firefox. C'est juste un petit redémarrage. On s'en rend compte à peine, on a un petit panneau pour vous dire « Ah, on a cette nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver, regarde, c'est pas mal. » Alors attention, hein. Je comprends parfaitement que mon discours ne fasse pas l'unanimité, notamment auprès des gestionnaires de parcs informatiques qui préfèrent avoir le contrôle sur ce paramètre et autoriser les mises à jour une fois que tout a bien été testé. Hein. Donc mais là, moi, je parle plutôt dans le cadre, on va dire, d'une utilisation grand public. Je pense que c'est mieux quand c'est automatique.
Ce qui retient parfois certaines personnes à activer les mises à jour automatiques, c'est que les mises à jour, au lieu d'apporter des améliorations, elles cassent un peu la compatibilité avec certaines choses, quoi. Donc ça, c'est toujours frustrant quand tu as une machine qui marche bien, puis en fait, tu as une mise à jour qui vient de casser ton système, quoi.
Après, il y aurait peut-être un travail, enfin, un plus grand travail de communication à faire à ce niveau-là, parce qu'il y a des choses qui sont... Bon, ça arrive souvent, normalement, lorsque c'est des mises à jour importantes, hein, donc, en grosso modo, une fois par an, voilà. Mais il y a sans doute voilà, un travail de communication à faire de la part d'Apple, et surtout, il faudrait, en tout cas, pour ces mises à jour dites mineures, qu'elles soient irréprochables.
Ah, c'est sûr. On va terminer le tour de l'actu en parlant de l'iPhone. Alors cette année, mis à part l'iPhone 17R, les nouveautés ne devraient pas être renversantes. Et d'après Mark Gurman, ça sera pareil l'année prochaine avec les iPhone 18. Il faudrait attendre l'iPhone 19 pour avoir des changements significatifs en matière de design. L'iPhone 19, ça sera d'ailleurs celui du 20e anniversaire de l'iPhone. Et oui, déjà 20 ans. L'iPhone 19 Pro aurait donc un tout nouveau design faisant la part belle au vert. Moi, ça m'enthousiasme pas plus que ça parce que bah, le vert, ça casse. Et c'est aussi cette année-là, en 2027, donc, qu'Apple sortirait son premier iPhone pliant. Mais ça va faire une longue attente, tout ça, non ?
Bah, pour l'iPhone Pro en vert, ce serait une bonne raison de prendre un Apple Care avec. Ouais, après, bon.
Super.
C'est iPhone Pro.
S'il est déjà assez cher comme ça, si tu es obligé d'ajouter un Apple Care.
Non, mais on ne va pas le condamner tout de suite. Après, bon, vu le peu de détails qu'on a, c'est sûr que c'est difficile de s'enthousiasmer. Voilà, mais c'est un peu comme, et encore là, on peut le comprendre quand on apprend que l'iPhone pliable aurait enfin recours au liquide métal. Bon, quoique là, on peut en comprendre l'intérêt vis-à-vis de la charnière. Bah, la question à court terme, c'est de savoir la place que va prendre l'iPhone Air dans cette gamme et dans nos vies, j'ai envie de dire. Est-ce que ce sera véritablement un best-seller qui arrive à s'imposer vis-à-vis des autres modèles de la gamme, ou est-ce qu'il va encore connaître le même destin que l'iPhone mini ou l'iPhone Plus ? Et puis, bah, l'année prochaine, pour Apple, ça sera pas, quand même pas une année... une année pour rien, parce qu'elle devrait quand même inclure son modem sur toute la gamme. Voilà, je pense que ça peut avoir un impact assez important. Alors déjà, Apple pour ses marges, et puis peut-être en matière d'autonomie. Et entre ça, et voilà, et à ça, il faut ajouter la puce Wi-Fi maison qui va arriver également progressivement sur les iPhones. Plutôt cette année a priori, mais quoi qu'il en soit, on s'aperçoit qu'Apple privatise toujours un peu plus ses terminaux. Alors, bon... C'est sûr que par rapport aux rumeurs de Gurman, il y a quand même deux choses. Qu'Apple cherche à marquer le coup en repensant totalement l'iPhone Pro, ça me paraît très bien. Bon, j'imagine qu'ils ne l'appelleront pas l'iPhone 19, et de toute façon, d'un point de vue marketing, on imagine qu'ils vont essayer de refaire le coup de l'iPhone 10. Bon, bah écoute, tant mieux. Par contre, attendre 2027 pour voir Apple commercialiser un iPhone avec un écran pliable... Ah, ça aurait été quand même une très 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 longue attente. Hein.
Écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end.
Bah, bon week-end à tous. Et si vous avez un peu de temps et que vous êtes abonné au club, je vous invite à écouter le confessionnel des utilisateurs Tesla dans le dernier épisode de Kernel Panic.
Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles à Sortie de Veille sur Apple Podcast ou une autre plateforme de podcast. Salut à tous, bon week-end.